Grégoire Delacour. Pour son, c'est le quatrième roman, je crois.
Oui, enfin, on dit le dernier, en général.
Oui, oui. Bon, moi, comme je pourrais me préparer, dernier en date.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Voilà, dont on se souvient qu'il nous avait réjouis avec la liste de mes envies il y a quelques années, et puis la première chose qu'on regarde, la liste de mes envies qui a été portée à l'écran, et puis la première chose que l'on regarde qui lui a valu un procès... très médiatique, grâce à Madame
Mademoiselle
Scarlett Johansson. C'est fini ce procès,
oui, oui, elle, ah oui, oui, elle a été déboutée.
Hein, elle a été déboutée de tout. Oui, oui.
Et moi dégoûté.
Et donc, qui nous propose en cette rentrée littéraire un nouveau roman, toujours chez Jean-Claude Lattès, qui a pour titre On ne voyait que le bonheur. Alors moi, je veux dire que j'étais un tout petit peu dérouté, parce que j'ai trouvé que vous, tout d'un coup, ou vous changiez un peu de registre, ou vous alliez au fin fond d'un registre beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus noir que les précédents. Qu'est-ce qui se passe ?
Ben, mais vous l'avez lu jusqu'au bout ?
Ah oui, je l'ai lu.
Parce qu'il n'est pas noir,
il n'est pas noir jusqu'au bout.
Il est noir au milieu.
Non, il n'est pas noir jusqu'au bout. C'est vrai qu'il n'est pas noir jusqu'au bout.
Il est lumineux,
si je reprends simplement ce que je lisais dans la presse il y a 2-3 jours...
Ou la presse dit n'importe quoi.
Non, attendez. Non, parce que justement, vous allez voir. L'auteur de La liste de mes envies va surprendre avec ce roman sombre. Antoine, qui est le personnage principal, le narrateur, ne s'est jamais remis de son enfance. Alors attendez bien. Sa mère s'est enfuie. Son père ne comprenait pas ses enfants. Sa sœur, traumatisée par la mort de sa jumelle, parlait à demi-mot, c'est-à-dire un mot sur deux plutôt, hein, mm-hmm. à peu près. À 40 ans, il est assureur, sa femme le quitte, il est au chômage, ses deux enfants le méprisent et son père a un cancer.
Enfin, voilà. C'est comme tout le monde, quoi, je veux dire.
Comme tout le monde, hein.
À peu près, oui.
Ouais. Et alors, il termine constat amer d'une vie ratée, etc., qui fait qu'après une descente aux enfers, quand même, on le retrouve au Mexique, où là, il fait le ménage dans un hôtel, mais la rédemption n'est pas loin grâce à une jolie rencontre. Voilà, je l'ai lu parce que finalement, on ne peut pas mieux résumer ce livre qui, effectivement, n'est pas sombre jusqu'au bout. Néanmoins, avouez qu'il est quand même violent.
Oui.
Et alors, pourquoi tout d'un coup cette inspiration si sombre ?
C'est grave. Je voulais pas faire un livre sombre. Je voulais faire un livre grave. Mais il faut remonter à la jeunesse du livre, en fait.
Moi, racontez-nous alors.
Voilà, je vais raconter. Ça va être bref. Je voulais pas l'écrire, ce livre. J'avais pas prévu de l'écrire après la première chose qu'on regarde. Et il y a 22 mois à peu près, on m'a annoncé que mon père allait mourir. C'est embêtant, enfin, voilà, ça arrive à tout le monde, ça va arriver. Voilà. Et du coup, je me suis posé plein de questions. D'habitude, on dit que c'est la personne qui va mourir qui revoit sa vie, et là, c'est moi qui revoyais la mienne. Je me disais, mais je perds qui ? Ça allait être long, ça allait être douloureux, on ne savait pas, c'est pas une mort subite, ou bon, voilà, on le prend dans la figure. Ça allait durer. Donc tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Est-ce qu'on dit à demain à quelqu'un ? De quoi on parle ? Quand quelqu'un a une vraie échéance, alors on a tous des échéances, mais là c'était vrai, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans 6 mois, ça pourrait être, etc. Donc je me suis posé plein de questions, comme est-ce qu'on est encore un fils, qu'on n'a plus de père ? Qu'est-ce que je vais regretter ? Qu'est-ce qu'on regrette le plus quand quelqu'un s'en va ? Est-ce qu'on a assez aimé les gens qu'on aime ? Est-ce que je vais avoir beaucoup de chagrin, moyen chagrin, énorme chagrin, tout petit chagrin ? Est-ce que le jour où on s'est engueulé parce qu'il ne m'a pas donné une sucette ou une glace, c'est un souvenir qui est important, dont je dois souffrir ou je dois oublier. Et tout ça est baigné dans ma tête, et le personnage d'Antoine est arrivé comme ça. C'est-à-dire que j'en ai fait un comptable des choses, c'est pour ça que j'en ai fait un assureur qui est chargé d'expertiser le coût des dommages causés à une vie. Par exemple, vous avez une maison que vous aimez, elle brûle, ça vaut tant. À l'intérieur de la maison, il y a l'armoire de votre arrière-grand-mère qui est très belle, que vous aimiez beaucoup, surtout l'armoire. Ça vaut tant, mais les souvenirs qu'il y a dans le tiroir de l'armoire, ça vaut combien ? Donc, c'est venu comme ça. Et en fait, c'était une manière de patienter en créant cette histoire. Et cette histoire s'est écrite un petit peu à mon insu, puisque le livre voulait exister. Moi, je ne voulais pas trop le faire. Donc, moi, j'ai endigué, j'ai essayé de donner un sens à tout ça, qui va vers les choses sombres, parce que je voulais quelque chose de très, très lumineux. Et pour avoir la lumière, il faut être dans le noir. sinon on ne la voit pas. Donc je suis allé à la lisière de notre inhumanité, de ce qu'on peut faire par...
Vous êtes allé au bout, parce que...
Oui, mais c'est ça qui est bien dans les romans, c'est qu'on peut aller au bout et en revenir.
Non seulement vous, effectivement, vous décrivez ce rapport difficile avec son père, je lirai un passage sur le père, mais en même temps, si j'ose dire... Pardon de cette formule, vous en rajoutez un peu, parce que la mère s'en va, elle termine dans des conditions un peu compliquées aussi dans la banlieue parisienne. Les jumelles, ses sœurs jumelles, il y en a une qui meurt, l'autre qui devient, donc on le disait tout à l'heure, qui parle un mot sur deux. Sa femme le trompe.
Mais ça, c'est une autre génération. C'est ce que je mets en parallèle, c'est deux générations.
C'est-à-dire que tous les personnages...
Il arrive une tragédie à tout le monde. On a tous des petites tragédies. Après, c'est la manière dont chacun réagit à une tragédie. Je veux dire, il y a beaucoup d'enfants. Moi, je viens de faire la tournée du Goncourt des lycéens. Le nombre d'enfants de divorcés qui ont souffert de ça, qui viennent me parler en disant « il y a des mots que j'arrive à mettre sur mon chagrin avec votre livre », il y a beaucoup. Donc, j'ai fait un peu une photographie sombre de ce qui nous arrive et pour emmener vers des destins, pour en sortir, justement. Alors après, on peut dire, tout le monde n'a pas autant de drames. Enfin, on en a quand même pas mal.
Alors, c'est écrit en trois parties. La première partie, effectivement, l'enfance, le mariage, les enfants, etc. Et puis, le drame qui survient. On en parle du drame ou on en parle pas ?
Faites comme vous voulez.
Est-ce qu'on préserve un suspense dans la lecture du livre ?
Pour les gens qui n'ont pas lu, je trouve que c'est sympa de ne pas tout dire maintenant.
Maintenant, on peut tout dire.
C'est pourquoi je préférais vous
poser la question. Après ça, il y a la deuxième partie où finalement, effectivement, il paye un peu la dette. Et puis il s'en va au Mexique pour oublier, s'éloigner, se reconstruire. Mmh. Et puis la troisième partie où justement c'est sa fille,
qui raconte
ses années vues par la fille, et qui, alors on peut le dire parce que ça se termine bien, disons-le, qui finalement va tout faire pour, va voyager et va partir au Mexique pour revoir son père.
Voilà.
Ce qui n'était pas.
Vous pouvez vous arrêter à la deuxième partie.
Quand on lit le livre, on n'est pas sûr de toute façon de ce qui va se passer.
Bien sûr.
Donc,
je vais juste finir sur pourquoi j'ai écrit le livre.
Oui,
puis après, on ira sur le. Donc, j'ai écrit ce livre, ça a duré à peu près 18 mois. Et c'était très important parce que. C'est pas du tout un livre qui raconte l'histoire qui m'est arrivée avec mon père, c'est pas un livre sur ce deuil-là. Le deuil, c'est un amour qui a plus d'endroit où se loger. Et j'en ai fait un livre. Donc c'est un endroit où il y a plein d'amour, mais pour qu'on voit de l'amour, il faut qu'il y ait du désamour, parce que les belles histoires de bonheur, ça fait pas des livres, ça fait des vies, mais pas des livres. Et donc j'ai écrit ce livre pendant un an et demi. Alors c'est pas une thérapie, c'est rien, mais j'ai eu besoin, le livre a eu besoin de sortir. Et je l'ai fini le 7 mai 2014, en fin de matinée. Et mon père est mort le même jour, le soir. Donc il y a des choses comme ça, il y a des livres qui sont plus importants que vous. C'est pour ça que j'aime bien ce livre. Mais s'il est sombre, il est lumineux, je l'ai écrit dans une période bizarre, puisque j'allais voir mon père, il y a 400 km de Paris à Valenciennes, aller-retour. J'avais mon boulot, enfin j'ai toujours mon boulot, et ce livre, je l'écrivais de façon totalement inattendue. Encore une fois, je n'ai pas prévu de l'écrire, donc j'écrivais n'importe où, n'importe comment. Pas n'importe comment, je veux dire au sens avec les pieds, mais il y avait une sorte de je devais être le porte-parole de cette histoire. De retrouvailles au sens avec un grand R. Le pourquoi de ce livre.
Et quel est le personnage qui vous a, disons, mobilisé, qui vous a vraiment incité à le faire et auquel vous êtes attaché en premier ? C'est le narrateur ?
C'est l'enfant. C'est l'enfant de moi enfant. C'est moi enfant que je ne connais pas. Et dans tous mes livres, il y a un trou d'enfance et j'essaie de le combler. J'écris pour savoir ce que c'est cette partie incroyable de l'enfance dont je n'ai pas de souvenir. Donc c'est l'enfant qui allait perdre quelque chose, c'est l'enfant qui allait perdre un père, c'est l'enfant qui doit transmettre à ses propres enfants son histoire d'enfance qui me manque.
Le portrait que vous faites du père à la page 245 est absolument terrifiant. Mon père, il ne nous tenait jamais la main dans la rue. Il ne parlait jamais d'Anne.
Anne, c'est une des deux filles,
celle qui est morte.
Voilà.
La jumelle qui est morte. Il ne s'allongeait jamais sur notre lit le soir pour nous raconter des histoires. Il n'inventait jamais d'histoires. Parfois, il nous lisait un livre, il achetait un livre qu'il ne nous lisait jamais. Je l'ai lu, moi, 1000 fois, là. Il ne regardait jamais les photos de notre mère en pleurant. Il buvait de la bière le soir jusqu'à ce que sa tête tombe dans son assiette. Il ne connaissait pas le nom des arbres, des fleurs, ni celui des oiseaux, seulement ceux des formules chimiques, parce qu'il est, chimiste, droguiste, chimiste. Des noms qui ne lient pas les hommes ne font pas les conversations. Il n'écoutait jamais de musique. Il ne nous a jamais appris à pleurer en écoutant Mahler. Il ne nous a jamais laissé exprimer nos douleurs, nos joies, nos colères. Enfin, c'est vraiment le personnage le plus sombre.
Non. Je crois que c'est un personnage ultra pudique. Moi, je me suis inspiré des pères que j'ai connus, enfin le mien, puis mes oncles. C'est des enfants de la guerre qui sont nés dans les années 30, qui ont une enfance massacrée dans le nord de la France où il y a des Allemands. Ils avaient rien à dire. On ne disait pas « je t'aime » parce que les gens qu'on aimait pouvaient mourir le lendemain. Et quand ils sont devenus adultes, ils ont une frayeur terrible. Ils n'ont pas, et moi, ils ne nous ont pas pris dans les bras, ils ne nous ont pas appris plein de choses, de peur que s'ils nous étaient supprimés, on ait une grande douleur. Donc je pense que c'est le portrait d'une génération qui a été extrêmement abîmée, à qui on n'a pas appris à aimer, ou en tout cas à le dire, et qui a refoulé, qui sont peut-être étouffés d'amour, qui n'est jamais sorti. Pour moi, ce n'est pas triste, ça. Ça correspond vraiment à une époque, une génération des années 30. Moi, je me souviens, ma mère, le seul souvenir d'enfance qu'elle m'ait raconté, elle avait 6 ou 7 ans, et je le raconte dans L'écrivain de la famille, elle a vu 2 Allemands au jardin public de Valenciennes tirer sur un parachutiste anglais qui descendait. Donc son rapport au monde, son enfance, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va se balader entre l'école et la maison, enfin dans les gravats et tout, et on voit qu'on peut mourir bêtement parce que deux gamins font le con. Donc je crois que c'est des gens qui ont eu très très peur de s'investir trop parce que la vie pouvait être volée de façon dégueulasse extrêmement vite. Puis après, il y a eu l'Algérie. Quand on a commencé à s'en remettre un petit peu, ils ont eu l'Algérie. Donc les femmes ont attendu, savoir s'il allait revenir. Ils sont partis pendant 3 ans. Et à part ceux qui font des livres, on ne sait jamais tout ce qui s'est passé. Il s'est passé des monstruosités là-bas. Il y a à nouveau le silence qui a été accablant. Et ça a été après les années 65, 70, tout ça. Et ça a été des gens assez malmenés. Donc ils étaient très prudents. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça dans le Nord. Et les pères de cette époque, dont les pères de mes cousins et tout, ils n'étaient pas câlins, ils n'étaient pas, on va rigoler, comme les papas poules des années 80-90. Donc il y avait cette sorte de silence. Ce n'est pas dire qu'il n'y avait pas d'amour, mais il n'était pas écrit, pas dit, pas exprimé. Donc pour moi, ce n'est pas triste, c'est un bilan de ces années-là qui a fait une génération comme ça de pères qui ont dû souffrir terriblement de ne pas oser aller vers les enfants. Et nous, du coup, on ne savait pas est-ce qu'ils nous aiment, est-ce qu'ils ne nous aiment pas, et c'était compliqué. Et ça fait de nous des enfants un peu mutilés de cet amour-là légitime, et des pères qui avaient eu du mal à se construire aussi, parce qu'on reproduit toujours l'image. Est-ce que j'explique, c'est pour ça quand vous dites qu'il y a plein de malheurs, non, il y a 2 générations, enfin il y a 3 générations dans le livre, et en fait, moi je veux démontrer qu'on hérite aussi de mésamour ou de trop d'amour, etc. Un père aujourd'hui qui est trop papa poule, c'est pas sûr que ce soit bien non plus pour la génération d'après. Tout doit être question d'équilibre. Mais je trouve pas ça sombre, je trouve ça... Il y a un joli chagrin là-dedans. Voilà, je pense que ce père, il a souffert, il aurait aimé. Moi, je connais pas les noms des arbres non plus. Je ne connais pas, à part un chêne, un platane et un marronnier, parce que je vois des marrons, des petites boulettes. Là. Mais on ne sait pas tout ça. Voilà, et puis voilà. Donc, voilà. Je suis d'accord. Alors, je trouve que c'est un très beau texte que vous avez lu.
Mais
je ne trouve pas ça sombre. Je trouve ça, non, je trouve ça touchant même de dire voilà, des gens étaient empêchés d'aimer comme ils auraient voulu.
Alors, il y a aussi des personnages plus brillants.
Ah, quand même.
Plus souriants. Et notamment, c'est quand il part au Mexique. Parce que, bon, il va payer sa dette au Mexique, il va s'exiler au Mexique.
Il ne paye pas sa dette au Mexique. Il commet un acte absolument terrifiant, qui est une des choses les pires qu'on puisse faire en tant qu'être humain.
C'est absolument terrifiant.
Et pourtant, on le fait. Tous les jours, pas tous les jours, mais très très souvent, il y a des faits divers. Moi, ça fait 15-20 ans que je repère ça dans les faits divers et ça me terrifie en tant qu'homme, en tant que père, en tant que fils, en tant que citoyen, en tant que publicitaire, en tant que romancier. Pourquoi des gens arrivent à ce point à ne plus aimer leur vie et n'ont aucune autre solution qu'une solution absolument terrible, radicale et bouleversante? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ni la société, ni la religion, ni l'entreprise, ni la famille peut aider? C'est terrible, et tous les jours on voit ça. Ça me hantait. Donc moi, j'ai décomposé ça dans la première partie. En fait, c'est les gens qui commettent des actes absolument monstrueux ne sont pas des gens en colère, ce sont des gens qui ont un chagrin immense et qui prennent le temps de construire une solution. C'est Ansel et Gretel. Je ne veux pas être plus clair, quoi. Et ça, Ansel et Gretel, on le racontait à nos enfants en rigolant, et c'est terrifiant quand on ne peut plus faire quelque chose. Et après, donc ça, c'est la première partie. Et après, il va passer un temps d'emprisonnement, enfin, pendant longtemps. Et en parallèle de cette punition et de cette... les gens essaient de comprendre, puisque c'est des cas qui restent malgré tout fascinants. Il part au Mexique, parce qu'il a tout perdu, enfin voilà, il part, et c'est l'exil, c'est le temps de l'exil. Il ne va pas se réparer au Mexique, il va dans l'exil. Et pour moi, l'exil, c'est important, parce que c'est un lieu où on se défait de ce qui nous a fait. Alors l'exil, ce n'est pas forcément loin. C'est dès lors qu'on quitte l'endroit où on n'est pas bien, on se met en exil, et l'exil, c'est dans le temps du présent.
Il faut dire que c'est un exil total, parce que non seulement, effectivement, il est quand même très éloigné, puisque le Mexique...
Mais il est éloigné, il ne parle pas la langue.
Il ne parle pas la langue, et puis il a rompu avec tout.
Il est obligé, il a rompu avec tout.
Avec
donc
tout le
monde. Voilà, donc il part dans un endroit qui est l'exil. Alors j'ai choisi
alors
le Mexique.
Alors pourquoi le Mexique,
quoi ? Je vous le dirai après. Et l'exil, ce qui est intéressant, c'est que c'est le présent, la notion d'exil, parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est-à-dire on se construit à chaque seconde. On peut dire « bonjour, je m'appelle Antoine, bonjour, je m'appelle Claude » à la personne d'après. Ce n'est pas important. Donc c'est au contraire, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un lieu imaginaire, l'exil, où on peut créer la personne qu'on veut être ou essayer de trouver celle qu'on aurait aimé être et qu'on n'a pas pu être. D'où les rencontres qu'il fait quand il voit un gamin, donc ça va changer son rapport aux enfants, d'où un rapport aux femmes, etc. Et c'est une page blanche. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et en parallèle, on autopsie ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on voit, on regarde, on essaie de comprendre. Alors pourquoi le Mexique ? Le Mexique, c'est venu dans le prologue tout à fait par hasard quand j'ai décrit dans une très très longue phrase que c'est la vie à ce moment-là du livre et j'ai écrit il y a ça puis j'ai mis le mot Mexique et j'ai écrit de façon inconsciente j'aurais pu mettre Panama enfin je sais pas pourquoi j'ai mis Mexique et en arrivant à la deuxième partie du livre je me suis dit il va partir en exil où va-t-il aller ? Parce qu'on me dit toujours oui vous écrivez dans le nord de la France vous êtes un ch'ti vous êtes et je voulais montrer aussi que je pouvais écrire un peu plus loin. En fait, je me suis aperçu à ce moment-là que j'y étais allé. Et je suis allé dans l'endroit qui est décrit, le Desconocido, qui est un hôtel absolument incroyable. Je vous invite à y aller. C'est un hôtel 100% écolo sur le Pacifique Ouest. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et Desconocido, ça veut dire inconnu. Donc, ça veut dire que dans mon temps d'écriture, il y a des souvenirs comme ça qui sont venus. C'est l'endroit où il allait être inconnu. Et l'endroit où j'étais s'appelait inconnu. Et j'étais allé à un moment de ma vie où j'étais moyen. J'étais patron d'une très grosse boîte de pub et je travaillais 17 heures par jour. Et à l'époque, il n'y avait pas d'heures sup, on ne récupérait pas. Et je devais être en bord d'un pétage de plomb. Et mon patron m'a convoqué un mardi, m'a donné un billet d'avion, quoi, d'hôtel. Il m'a dit, tu pars samedi. Et c'était vachement sympa, il y avait des bons patrons à l'époque. Et il dit, si tu ne pars pas, je te vire. Et je suis parti une semaine là-bas et ça m'a fait le plus grand bien. Donc je pense qu'il y a une notion d'inconscient quand j'ai écrit ce livre qui a fait ressurgir ce lieu que j'avais un peu oublié puisqu'il correspondait à la fois à un moment où j'étais pas très bien, où je travaillais trop et c'était compliqué ces années dans la pub et à un endroit où j'étais très bien. Peut-être j'ai voulu préserver cet endroit de la connaissance de tout le monde.
Donc, voilà et donc là, vous avez imaginé que lui pouvait se reconstruire.
J'aimerais bien imaginer que chacun de nous puisse se reconstruire après un drame dont qu'on en soit la victime ou l'auteur. Je pense que c'est important. Moi, je crois énormément à la deuxième chance. C'est Francis Scott Fitzgerald qui disait « il n'y a pas de deuxième chance dans la vie d'un Américain », ce que je trouve dommage s'il le pense. Moi, je pense qu'il faut y croire et qu'on doit essayer de la mériter pour soi et de la donner aux autres. Oui, c'est un peu l'enjeu du livre.
Alors, il fait des rencontres, effectivement, là-bas, et deux rencontres essentielles, une femme dont qui est accompagné d'un petit garçon,
ouais.
Dont on pense que c'est son frère.
Fils. Son frère.
Son frère.
Oui, non, le fils, oui, c'était Léon, pardon. Mais
c'est
oui.
Après qu'on découvre.
Oui.
Vous l'avez écrit vous-même.
Oui, oui. Enfin, j'ai lu dans le train en venant parce que j'ai pas lu la fin. mais ça avait l'air bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé ça dur, sombre comme vous.
Non,
j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de terminer le débat pour lire la fin parce que c'est assez étonnant.
Parce que la fin est plus souriante.
Tout, même le début est très très bien.
Parce que au départ, donc, on pense que c'est son petit frère. Et on découvre après que c'est son fils, etc. Et ce môme, il se l'approprie complètement et il va le porter, le supporter, et je veux dire le supporter, vraiment devenir son supporter, puisqu'il l'entraîne au foot pour essayer d'en faire un grand footballeur.
Un grand gardien de but.
Un grand gardien de but.
Mais il est petit. Il est embêté, mais il est très petit. Pour un gardien de but, c'est embêtant. Non, en fait, il rencontre ce gamin dans le village à côté de l'endroit où il travaille. Et c'est un gamin qui est en recherche d'un grand frère, d'une autorité, de quelqu'un. Parce que comme il est gardien de but, mais il encaisse tout parce qu'il est trop petit, il n'a pas de copain, évidemment. Et lui, il va lui apprendre avec plus de poésie, plus de tendresse, que même petit, on peut... Et que c'est bien d'être petit parce qu'on saute plus haut pour attraper une pomme, pour attraper un ballon. Et chaque pomme attrapée, c'est une vraie victoire. Et il se crée une relation très, très importante. Et surtout, je crois qu'au travers de ce gamin, il va essayer justement d'apprendre les noms des arbres. D'apprendre. Il a décidé, je ne vais pas être le père que j'ai eu pour lui. Je vais essayer d'être un père, au fond, comme j'aurais aimé avoir. Donc, tout le chagrin qu'il a ressenti, et le passage que vous lisiez, finalement, ça va lui servir à essayer de s'améliorer, de se donner cette seconde chance à lui, et d'être vu et retrouvé par ce gamin comme un père possible. Alors, il ne s'agit pas d'être le père de cet enfant et tout, hein, il s'agit d'une vraie amitié, et y avoir une belle rencontre entre un adulte et un enfant, et c'est ça qui lui a manqué lui-même avec son propre père, avec peut-être ses propres enfants dans la première partie.
Et puis alors la rencontre avec cette femme qui va effectivement l'aider à se, comme je le disais tout à l'heure, à se reconstruire, à oublier et à retrouver quelque chose de positif.
Je ne sais pas si elle l'aide parce qu'on n'est pas le Samaritain de l'autre, mais il y a une jolie relation entre les deux parce que j'ai décidé qu'ils ne coucheraient pas ensemble. Alors dans les livres, on aime bien que le héros et l'héroïne, ils aient des trucs et ils ne s'embrassent même pas. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est le temps que ça prend. De remettre du désir et pas de la précipitation. Et donc, ça passe 1 an, 2 ans, je crois qu'ils restent 3-4 ans là-bas.
4 ans.
Ils n'ont pas de relation sexuelle, mais ils ont une sexualité. C'est-à-dire, ils ont une relation extrêmement tendre. Et à un moment, elle lui remet une mèche de cheveux, ou lui, ou je ne sais plus. Je n'ai pas encore lu, j'ai lu en diagonale. Il remet et il dit cette phrase que je trouve très belle. Il dit, ah, je lui remets, voilà, nous, c'est ça. Et à un moment, je lui remets une mèche de cheveux. Et il dit, il y a tant de manières de faire l'amour. Ouais. Et ça, je trouve joli parce que tout d'un coup, il va même réinventer ça. Par rapport à sa femme qui était dans une autre vie un peu plus gourmande. Donc il va mettre lui plus de temps par rapport à ça et ça crée une relation très très belle où il y a de l'amitié aussi, il n'y a pas que du désir amoureux, sexuel, il y a une grande grande amitié et parce qu'il sait qu'une fois qu'ils auront fait l'affaire, c'est tout ça et au fond c'est que ça.
Tout ça pour ça. Tout ça pour ça.
Non, je ne dis pas ça, je dis que c'est énorme et en même temps c'est tout ça et c'est que ça. Voilà. Après, ça ramène à quelque chose, je veux dire, à moins d'être chez potes, s'accrocher là et de se lancer comme Tarzan et Jane. Mais je veux dire, c'est étonnant, mais c'est pas dingue. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Mais c'est vrai qu'il a, de par son passé, une des relations difficiles, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Alors, avec les hommes, parce que son père est ce qu'il est, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais avec sa mère, qui a été quand même très absente. Qui n'a pas été...
Sa mère, elle est absente parce que 90% des couples où soudain un enfant manque ne s'en remettent pas. Ça, c'est un fait, c'est une donnée. L'amour, l'amitié, la tendresse fait que le couple se disloque. C'est-à-dire la perte, la disparition d'un enfant fait disparaître le ciment du couple. Donc la mère s'en va et c'est une relation, c'est une attitude triste, mais c'est pas étonnant. Voilà, c'est comme ça. Alors ce qui est nouveau dans le livre, c'est qu'elle n'a pas les enfants. Elle est un peu moderne, elle les donne au père, enfin elle les laisse parce qu'il y en a marre de dire maman elle a les enfants quand elle s'en va, ça va, je veux dire, il faut c'est pas la boniche non plus la femme quoi. Et donc je trouvais intéressant comment lui le père avec ses enfants va essayer de construire quelque chose et finalement il va pas y arriver, il va se créer entre mon personnage Antoine et sa sœur une relation extraordinaire dans l'enfance qui va être magnifique, qui va être le pourquoi de tout livre et de la fin. Parce que c'est pas que noir. Ils vont, ces deux gamins, traverser toute leur enfance d'une manière incroyable, belle, comme un beau vaisseau, un beau voilier sur un lac. Là. Quelque chose de très, très, très beau dans ce chaos. Et la mère s'en va, et la mère, j'en ai fait une rêveuse. Alors peut-être parce que les mères que j'ai connues, mes tantes, la mienne et tout, étaient ces filles de la guerre dont nous parlions tout à l'heure, et qui étaient un peu à la traîne, qui avaient des rêves. Moi, je me souviens, ma mère, quand elle voyait Sagan, elle était avec des grands yeux en disant « Mais c'est possible !» De fumer, c'est possible de conduire une voiture très vite, pieds nus, c'est possible d'avoir 1, 2, 3 amants. Et elle ne pouvait pas, ça ne se faisait pas du tout. Et donc elle a rêvé comme ça des vies à travers la vie des autres. Et puis Valenciennes, c'est quand même, ici c'est, ça va, mais Valenciennes, vous imaginez, dans ces années-là. Le premier divorce a été dans la petite bourgeoisie à laquelle mes parents appartenaient, a été. Annoncé dans les années 70, la ville, cette communauté de petits bourgeois commerçants, était en larmes. Un divorce, mais c'était inconcevable. Donc voilà, donc elle, j'en ai fait une grande romantique, c'est-à-dire elle rêve d'une très très grande histoire d'amour, mais d'une passion absolument amoureuse. Elle dit quitte à en mourir, même si ça doit durer 8 jours, mais connaître au moins une fois ça, plutôt qu'une vie aimable, une vie banale, une vie où voilà, on s'aime au début, puis après on fait les poubelles, puis après on fait des projets, puis après on va acheter des trucs, puis on regarde des catalogues de vacances, puis on va au Maroc à 4 pour 800 euros. Elle n'avait pas envie de ça, et je pense que je voulais un personnage qui incarne cette passion absolue l'amour de l'amour, quoi, d'une passion, et que avoir une vie où on connaîtrait pas une passion, où on pourrait en mourir, c'est pas une vie, c'est du gâchis, quoi. Et elle incarne ça, et ça lui sera pas donné, malheureusement. Mais elle va essayer de transmettre tout ça à son fils. Et c'est ça qui est beau, parce qu'elle, elle va transmettre des choses à un gamin qui peut pas le comprendre. Elle lui dit, sois pas comme ton père, fais tourbillonner les femmes, fais les rêver, fais des promesses que tu peux pas tenir, on a besoin de ça, nous, les femmes. Et elle lui dit ça, une grande histoire d'amour.
C'est
même
le grand idéaliste.
Ouais, ouais. Mmh. Et c'est important parce que je trouve qu'on rêve plus assez de ça. Voilà, il faut que ça dure. C'est pour le meilleur et pour le pire. Vous rendez compte, pour le meilleur et pour
le pire. Il se voulait écrivain, d'ailleurs, aussi, à un moment, il me semble. Elle se voulait écrivain.
Non, elle aimait les livres. Elle aimait les livres et tout. Mais voilà, et aujourd'hui, on vous dit pour le meilleur et pour le pire. Mais quelle horreur. Mais pas le pire, surtout. Ah non, mais barrons-nous si c'est le pire, vous voyez. Donc c'est ça, j'ai essayé d'en faire un précurseur de ce qu'allaient devenir les femmes que j'ai rencontrées, pas personnellement malheureusement, mais ces grandes héroïnes du cinéma français des années 70, les Deneuve, les d'Orléac, les Romy Schneider et tout, qui ont incarné une nouvelle génération de femmes libres, indépendantes, mais avant tout libres.
Alors pourquoi vous avez éprouvé le besoin dans la construction du livre que le personnage, sa fille, donc, avec qui se noue ce drame épouvantable
Joséphine,
tout d'un coup, parle à la première personne dans la troisième partie
de c'est son livre, journal.
Et raconte, elle, son journal.
Oui. C'est son journal. Parce que je me suis dit, une gamine qui ne peut plus parler, elle écrit. C'est un côté thérapeutique. Elle écrit son histoire, elle ne peut pas parler. Au début, elle a 11 ans, elle ne peut plus parler. Donc, elle va l'écrire et elle écrit un journal qui raconte, qui a une sorte de travail, hein, qui raconte ce qui lui est arrivé, sa rééducation, ses rêves, son éclosion à l'adolescence, puisque la troisième partie se passe entre ses 11 et 17 ans, donc sur 6 ans, je crois. Et entre des pages de son journal, il manque, hein, on n'écrit pas tous les jours et tout. Et à 17 ans, elle comble les vides. Mais elle raconte à elle, elle raconte son journal, de son odyssée, et on se rend compte qu'elle l'écrit, et en écrivant, elle l'écrit pour quelqu'un.
Elle l'écrit pour quelqu'un, elle s'adresse de temps en temps à son père, d'une façon très violente.
Au début, oui, bien sûr. Mais c'est très, très dur de se remettre de... Vous savez, moi, mes parents ont divorcé d'une manière très, très dure, et on est massacrés. On en veut à la terre entière, on s'en veut à soi d'abord, parce qu'on se dit, est-ce que c'est de ma faute ? Et on ne s'en remet pas, parce qu'il n'y a pas eu assez d'amour, puisqu'ils ne sont même pas capables de rester pour nous. Donc c'est d'une violence inouïe. C'est d'une violence inouïe. On l'oublie, ça. On dit, c'est normal, on est divorcé. Mais des enfants, ils sont fracassés de ça. On met des années à s'en remettre. On s'en remet peut-être jamais. Mais on apprend à apaiser le chagrin et tout. Et c'est une métaphore de ça aussi, ce livre. Et cette violence, c'est pourquoi mon père nous a abandonnés. Et elle met beaucoup, beaucoup de temps à remonter. Parce qu'il n'y a aucune réponse possible à pourquoi on n'est pas aimé. Il n'y en a pas. Elle essaie, elle appelle la question horrible, elle se la pose tout le temps, et elle dit « Pourquoi moi ?» Et elle trouve 7 réponses, j'aurais pu en trouver 1000, aucune est juste et toutes sont bonnes. Pourquoi on n'est pas aimé par la personne qui devait vous aimer ? Il n'y a pas de réponse. C'est la pire, pire question qui puisse être posée.
Alors, on disait tout à l'heure, c'est vrai...
Sinon, il y a des trucs drôles, hein. J'ai lu 2 phrases drôles dans le livre.
On disait tout à l'heure, c'est vrai que donc il se reconstruit, il renaît grâce à cette femme qu'il rencontre.
Il renaît pas. Les choses pourraient devenir possibles. Après, c'est lui qui en fera ou pas. Ouais. Mais disons qu'il, d'une page blanche, d'un sable blanc du Mexique, il est possible qu'il écrive sa vie cette fois-ci.
Et grâce à ce petit garçon aussi qui prend donc en amitié, en affection, avec qui il entraîne au foot.
Très peu de pages sur le foot. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de dames. Et souvent, le foot, c'est moyen intéressant. Je ne connais pas. Il y a un lycéen qui m'a dit « Vous ne connaissez pas trop le foot, apparemment, mais donc c'est très bien, c'est très court, hein, vous embêtez pas. » Non, parce qu'il dit « Il va nous raconter des matchs pendant des pages et des pages. » Non, ne vous inquiétez pas. Il y a 10 phrases.
Non, mais en plus, c'est très joliment écrit. Et puis, tout d'un coup, donc elle fait cette psychanalyse en écrivant, comme vous le disiez à l'instant, en écrivant son journal, son histoire. Et puis, finalement, quand elle arrive au bout, elle décide de traverser, elle aussi, l'Atlantique et de partir à la recherche de ce père. Pourquoi ?
En fait, on revient un tout petit peu en arrière. Dans la sœur de... Donc, Antoine, le héros, a deux sœurs jumelles qui sont un peu plus jeunes de 5 ans, je crois, et qui, ouais, évidemment, tant qu'elles sont ensemble, le prennent
Anne,
pour un...
Anne et Anna.
Anne et Anna. Comme ça, c'est par facilité.
Alors, Anne est morte très jeune et Anna...
Bah, 5 ans, à 5 ou 6 ans. Évidemment, tant qu'elles sont ensemble, lui, elle ne les voit pas, elle ne les calcule pas, comme on dit maintenant. Donc, lui est vraiment un enfant solitaire et les deux filles émerveillent papa et maman parce qu'elles sont mignonnes, elles sont jumelles. Puis, un côté poupée dans les jumelles. Nanana. Et puis, un matin, l'une des deux ne se réveille pas et la maman est embêtée parce que pendant quelques secondes, elle ne sait pas laquelle. Parce qu'elles ont les mêmes coiffures, les mêmes pyjamas, les mêmes petits vernis, les mêmes petits trucs. Et ça, c'est une douleur terrible pour elle en tant que mère de ne pas avoir reconnu immédiatement laquelle des deux. Et c'est ce qui va déclencher de dire je ne peux plus, c'est une vie, j'en veux pas, j'ai pas de force pour la porter. Je vais répondre, j'y arrive. Et donc, en tant que romancier, moi, ça m'amusait de dire tiens, ben voilà, le type des jumelles, c'est un élément très romanesque, c'est une notion de miroir. Et on a coutume de dire que quand l'une tousse, l'autre le ressent, etc. Moi, ma mère, il s'avère, on va dire, c'est mon histoire. Oui, mais non, c'est un livre personnel, mais pas du tout mon histoire. Ma mère me disait toujours, ah, j'ai mal aux dents, il faut que j'appelle ma sœur, elle doit souffrir. Ça va, quoi. Et j'avais l'impression... elle exagère, mais il y a des jumelles aussi dans les de mes envies. Et donc ça m'amusait le côté ah ben, j'ai faim, elle doit avoir faim, donc elle appelle, qu'est-ce que tu fais à manger, enfin, on n'en pouvait plus quand on était petit. Je dis mais lâche-la, ça va, etc. oui mais elle va mourir avant moi, elle va mourir, puis c'est la mienne qui est partie, l'autre est toujours là, mais increvable en plus, une horreur. Et voilà, et donc je me suis dit, si c'est vrai tous les carabistouilles qu'elle m'a raconté, si une des deux ne se réveille pas, ce qui est le cas, de quoi l'autre est-elle mutilée? J'aimais bien tout ça. Et romanesquement, me suis imaginé qu'elle n'a plus qu'un mot sur deux. Et qu'un mot sur deux est resté avec l'autre. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, c'est une maladie, je connais, c'est incroyable. » Oui, effectivement. Et alors, j'ai un matériau romanesque que j'ai 100% inventé, mais des gens pensent que c'est tout à fait vrai, qu'on peut ne avoir qu'un mot sur deux. Et alors, ce qui va évidemment relier Antoine et sa petite sœur, puisqu'Antoine a 12 ans et sa sœur 7 ans, ils sont orphelins de leur sœur. Et elle n'a plus qu'un mot sur deux, et il la prend vraiment sous son aile, et lui, il la comprend à demi-mot, parce que c'est aussi une réflexion sur le langage, comment on comprend quelqu'un qui ne parle pas votre langue, d'où l'exil, d'où, comment on dit, voilà. Il se rend compte très tôt que ça va être terrible la vie de ma sœur, parce que quand elle va quitter quelqu'un pour lui dire « je ne t'aime plus », elle va lui dire « je t'aime », puisqu'il manque un mot sur deux. « Je ne t'aime plus, je... » Et là, il se dit, elle va, ça va être une bourrasque, sa vie, et ça, elle ne va pas y arriver. Donc, ils vont traverser l'enfance ensemble. J'arrive, hein, vous inquiétez pas, votre question, je fais un détour, parce que c'est une question intéressante. Et plus tard, donc, Antoine est parti au Mexique et tout, et va se nouer une relation entre Anna, la tante, qui est la mémoire un petit peu de l'enfance d'Antoine, et Joséphine. Et elle va lui dire, mais ton père, oui, c'est un énorme salaud à ce moment-là, mais sache aussi, on est ce qu'on fait. Ce qu'il a fait, qui est horrible, mais ce qu'on fait, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec nos héritages, on le fait avec nos peurs, on le fait avec nos éducations, avec nos fantômes. Mais il y a aussi ce qu'on est. Et elle lui raconte un homme, un adolescent, un jeune homme, un homme formidable, jusqu'au bout, hein, qui a été épatant. Et je crois que cet homme que Joséphine n'a pas connu, son père, c'est cette personne qu'elle a envie de découvrir, de retrouver. Et c'est pour ça qu'elle va peut-être entreprendre de voyages pour avoir ça. Et qu'elle va passer de « je ne juge plus sur ce qu'on a fait, mais sur ce qu'on est ». Et on est une société où on est jugé tout de suite par ce qu'on fait. Lui, il est viré, Antoine, et ce qui va déclencher beaucoup de choses, parce qu'il est, on l'a dit, il est assureur, et donc il est payé, il dit pour payer le moins possible. Parce qu'évidemment, les assureurs, ils vous disent « donnez-nous votre argent ». Puis quand vous leur demandez,
il fait des expertises,
votre maison elle était vieille, votre voiture elle était pourrie.
Il fait des expertises pour les assureurs.
Et un jour, il essaie de jamais rembourser bien, il en souffre. Et un jour, il tombe sur une dame à qui on a apparemment volé la voiture, qu'on retrouve calcinée, et il se rend compte évidemment qu'il y a une petite supercherie. une petite escroquerie, on va dire, à l'assurance, comme il y a tous les jours, comme on fait tous, pour se venger. Et il décide de la rembourser correctement. Et ce jour-là, il est viré. Et le seul jour où il veut faire le bien, il est viré. Et souvent, ça arrive. Et donc, ça va commencer à être le début de cette fameuse descente où on s'aperçoit que ce qu'il faut en l'air novice, ce n'est pas un énorme drame, c'est la suite de toutes petites gouttes d'eau qui, jour après jour, font déborder le vase de nos vies. C'est pas mal, ça, comme phrase. Et donc, il a effectivement sa femme qui l'a quitté, elle est revenue, elle a quitté, c'est un couple difficile, mais ce n'est pas grave. Il a perdu son boulot, là, les enfants sont inquiets, ils ne le regardent pas comme un super-héros. Tout d'un coup, c'est dur, c'est honteux. Moi, j'ai été viré comme une vraie mère dans 3 minutes. Je peux vous dire, je ne savais pas comment j'allais prévenir mes enfants. C'est honteux, on est honteux. On est sali, on n'est plus rien. Et donc, c'est l'accumulation de tout ça qui fait que ça commence à devenir difficile. On se fait arnaquer par le taxi qui fait le plus grand chemin pour vous prendre 10 euros de plus. Le boucher, j'espère qu'il n'y a pas de boucher. De femme de boucher. Non. Parfois, on pense que vous avez donné 10 euros, alors vous en avez donné 20. Alors, bon, on ne va pas faire de scandale. C'est toutes ces petites lâchetés ordinaires qui sont au fond d'une politesse extrême. La lâcheté, c'est une politesse qui va trop loin. Et on n'ose pas dire non, déconnez pas. Même le jambon, regardez, je vous donne un conseil. Le jambon, vous voyez, du jambon. Il y a la couenne autour. Pourquoi ils la vendent au même prix que le jambon ? Ben oui, non, mais il y en a qui coupent, mais enfin quand même, il faudrait dire, écoutez, il y a 100 grammes là, vous me faites 80 parce qu'il y a le gras que je ne vais pas manger. Voyez, et ils nous arnaquent comme ça, puis ils mettent bien le papier, le plastique et tout, et puis ils mettent souvent plus 5 grammes hein, sur sa balance. Donc c'est toutes ces choses qui, mises bout à bout, fait qu'un jour, on n'a plus la force, on n'aime plus sa vie.
On craque.
Et en fait, c'est l'histoire d'un pétage de plomb. Et il y a de plus en plus de gens, on parle d'une grande maladie, c'est le burn-out. Il y a 20 ans, c'était le mal de dos. Burn-out, c'est pareil. Et donc, ça entraîne des vies dans le chaos. Ça entraîne, moi je vous dis, un type qui n'a pas de boulot depuis un an, mais c'est quoi sa vie? Il fait quoi? C'est terrifiant, il ne trouve plus. Puis les gens n'y croient plus, les enfants, on a de moins en moins. Puis les copains, ils disent, ça va, il est gentil, il est déjà venu manger la fois dernière, t'as vu, il a même pris beaucoup de pain. Non, je plaisante, mais voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est comme ça de désosser quelqu'un qui arrive au bout du bout du bout. Alors, il faut retrouver des sources dans l'enfance, parce que l'enfance, la famille, est sûrement il y a une explication. La famille, c'est un endroit extraordinaire, parce que c'est l'endroit où on devrait vous aimer indiscutablement, incontestablement, et c'est l'endroit qui peut aussi vous faire le plus de mal. C'est un des plus beaux paradoxes, cet endroit-là.
Et alors, donc, il retrouve, c'est vraiment la dernière page, sur une plage au Mexique.
Elle voulait vraiment tout dire, hein, c'est quand même incroyable.
Non, il va tout dire. Elle retrouve son père. Et j'en dirai pas plus. Et là.
C'est la dernière page. C'est la dernière page. Après, vous avez les remerciements, le numéro de l'éditeur, la date où ça a été édité.
La dernière phrase.
La librairie, l'imprimerie où ils ont imprimé. Après, il n'y a plus rien. Après,
la dernière phrase.
Bah, en plus, je vais dire la dernière phrase.
Bon, qui est d'ailleurs détachée de la fin du dernier chapitre.
Oui, enfin, il faut comprendre pourquoi, parce qu'elles sont toutes les dernières.
Alors,
phrases.
Finalement, nos vies valurent la peine. Alors, on revient effectivement à ce qu'on disait au début, c'est qu'est-ce que vaut une vie, puisque c'est la première phrase du roman.
Une vie, ça vaut la peine.
Ça vaut entre 30 et 40 000 euros.
Oui, ça, c'est vrai.
Dit-il au début du livre.
Vos vies valent, je suis désolé, à la si fin, vous pensez que vous valez beaucoup plus, c'est le shit. Non, c'est vrai, c'est des vrais chiffres.
Nos vies valurent la peine.
Ouais.
Et alors là, tout d'un coup, après vous avoir dit que...
Que
je ne dirai rien. Je n'ai pas tout dit, vous avez remarqué quand même, hein.
D'accord.
J'ai pas tout dit.
On va parler d'FFF après.
Je trouvais que c'était un peu sombre et grave et lourd. Je dois dire que là, tout d'un coup, avec cette dernière phrase sur cette plage, quand il raconte le père, raconte-nous-la, on a envie de savoir ce qui va se passer après, entre deux.
Je vous dirai pour.
Alors ça, vous le savez, vous ?
Ce qui va se passer entre eux ?
Ouais. C'est quoi ?
Je ne dis pas. Ah ben non, ça appartient à chaque lecteur. Après, on prend le livre, on continue. Moi, on m'a demandé ce que devient Jocelyne dans la liste de mes envies. Je dis, vous en faites ce que vous voulez. Chacun continue l'histoire. Et je pense que c'est bien de mettre en place un plan possible. Et après, la maison, les chemins, c'est les gens qui les empruntent. D'autant plus qu'ils souhaitent continuer ou avec le personnage, ou que le personnage devient un peu constitutif de leur vie. Moi, tous les gamins, là, au Goncourt, ils me disaient... Joséphine, elle est dingue, c'est notre copine, quoi. C'est une héroïne, c'est quelqu'un
qui incarne... Elles aiment bien les jeunes.
Ah ouais. Ah ouais, c'est énorme. Parce que
les jurés Goncourt, apparemment, c'était pas leur truc. Hein.
Ça, j'en sais rien. À un moment, faut éliminer.
Non, mais
c'est pas ça.
Ouais.
Non, mais c'est important et c'est un.
C'est pas le Goncourt.
Oui, c'est bien fait quand même. Le Goncourt, c'est un prix d'éditeur. C'est pas les livres. Ça sera machin ou truc et on retrouve les trois grandes maisons habituelles, quoi. On le sait, c'est pas ça qui est important. C'était formidable pour moi d'être sur la liste du Goncourt. Ça donne accès au Goncourt des lycéens, qui est un prix important, et surtout d'aller confronter un texte très moderne sur une problématique très très contemporaine des gamins qui viennent de ça et pour lesquels c'est un livre incroyable parce qu'on parle de choses. Il y a des mots sur leur douleur, leur chagrin. Et il y a très peu de livres dans la sélection qui sont contemporains. Il y a beaucoup de livres historiques. Aliénor d'Aquitaine, la guerre, beaucoup la guerre. Pour le Goncourt, tous les 1 an sur 2, il y a un livre sur la guerre, vous remarquerez. Donc même Charlotte, qui est un livre admirable, c'est quand même une figure. Donc on parle de personnages qui ont existé avec une sorte de respect poli. Là, c'est un livre qui rentre dans la vie des gens. Et les gamins, ils me disent, il y a des gros mots de temps en temps. Et bien, je dis, oui, c'est normal. Les gros mots, ils sont dans le langage d'aujourd'hui. Moi, je mets des gros mots parfois dans le dialogue, parce qu'on parle comme ça, et que les gros mots ont leur place dans les livres littéraires. Céline a quand même écrit des choses formidables avec des mots qui n'étaient pas polis à l'époque, et ça reste plus que les livres polissés.
Pourquoi on ne voyait que le bonheur ?
Parce que c'est une menace, ce titre. Parce qu'on sait bien que ça n'existe pas. Parce que c'est un peu ce qu'on a appris de nous à laisser les jolies choses. Bon, maintenant, il y a moins parce qu'il y a des téléphones, je crois, qui s'appellent iPhone, qui font des photos. Donc les gens, ils sont comme ça, avec des boîtes noires, et ça fait des photos. Et après, on ne sait pas où ça va, on ne les revoit jamais, parce qu'on voit parfois des gens dans des restaurants, ils sont à 5 sur une petite boîte noire, puis il y a quelqu'un qui fait ça, puis on voit. Voilà, ça paraît que c'est des photos d'aujourd'hui, il paraît que c'est ça. Mais de mon temps, il y avait des albums de photos, c'est-à-dire qu'on sélectionnait. Non, mais c'est très important, ça coûtait très cher de développer une photo. Aujourd'hui, c'est gratuit, donc on ne fait plus attention. On fait n'importe quoi, on fait des selfies. Oui. Moi, j'ai plein de selfies avec les lycéennes, je peux vous raconter, c'est sympa chez moi. Là. Et du coup, on sélectionnait. C'est-à-dire, comme ça coûtait cher une photo, on ne faisait pas tout et n'importe quoi. On essayait. Alors, il y avait des trucs tartouilles, parce que du coup, la grand-mère est posée, évidemment. Mais finalement, on n'avait pas les photos tout de suite, on attendait 2-3 jours, et puis on était parfois déçus et parfois agréablement surpris. Puis après, on faisait un album, donc ce qui allait dans l'album, c'était vraiment, ça avait passé le test. Et parfois, avant d'aller dans l'album, il y a des gens qui coupaient la moitié de la photo, parce que tonton, il avait regardé la cousine, ou parce que tonton, il était moche. Et parfois, des dames se découpaient le visage, parce qu'elles trouvaient qu'elles avaient une gueule de cake ce jour-là. Et donc, on voulait laisser de nous qu'une image, qu'une vie de bonheur et de beauté. D'accord ?
On ne voyait que le bonheur.
Et on voyait que le bonheur. Et moi, ce qui m'intéresse de penser, c'est qu'il faut arrêter avec cette représentation de parfaite, de nous, de tout ça, et que nos failles, elles peuvent être belles. Nos douleurs, elles peuvent être belles. Nos fêlures. Moi, j'aime les gens fêlés. Pas des brins de zinc, mais des gens fêlés. Je les trouve touchants parce qu'ils sont consolables. Et que tout d'un coup, je peux consoler quelqu'un. C'est ça la notion de retrouvaille dont je parle, c'est que je peux aider quelqu'un, je peux le retrouver. Et moi, je peux être vu avec mes failles, avec mes chagrins, et tout d'un coup être sauvé et pas arriver à des choses comme ça. Mais si on ne montre pas, si on ne donne pas à voir, on ne peut pas être réparé, consolé, retrouvé, ni par nous-mêmes, ni par les autres. Donc c'est ça que je voulais dire. Il faut arrêter avec cette perfection-là, avec et des femmes, et surtout les mecs, qui sont assez lourds en général, qui veulent être toujours bien inébranlable, des rocs. Et moi, je me souviens de La Piscine, le film avec Alain Delon et Maurice René. Moi, c'est Maurice René que j'aime bien. Moi, je serais une femme, je l'ai été d'ailleurs, dans la liste. C'est lui que j'ai envie de prendre, c'est lui que j'ai envie de consoler. Et moi, je voulais arriver à mon personnage, et c'est ce qu'on me dit, c'est horrible comment vous avez fait que d'un monstre, on ait envie de le consoler. Et quand les gens qui ont lu me disent ça, ben, ils ont compris leur immense capacité de donner la vie à quelqu'un, de donner une seconde chance. Et c'est ça que je voulais faire. Et c'est ça que les gens ressentent, je crois.
Enfin, vous reconnaissez que c'est quand même un monstre.
Mais on est tous, à un moment donné, un monstre. Chacun, c'est pas parce qu'on fait un truc énorme, on a tous cette capacité de faire ce qu'on pense inhumain, ce qu'on pense pas capable de faire. Souvenez-vous du choix de Sophie. Les Allemands disent, on va vous laisser un de vos deux enfants, on bute l'autre. Lequel ? Mais si je dis ça à n'importe lequel d'entre nous, jamais je réponds à cette question. Mais on répondra tous à cette question. Mais tous. Il serait inhumain de ne pas répondre. Et la réponse, elle est une inhumanité. Et moi, je veux comprendre ça. Pourquoi on est capable d'aller jusque-là ?
Alors, moi, je vous conseille de le lire pour vous faire votre jugement personnel, mais c'est vrai que c'est un livre très, très costaud, lourd, superbement écrit, superbement construit, avec de vrais personnages très, très bien, très, très bien dépeints. En vous remerciant.
Et c'est moi qui vous remercie.